CJMD 96.9, l'alternative radio.
On va aller plus haut, la musique dans l'âme. On va aller plus haut, on va chanter ensemble.
96.9 CJMD.
L'alternative radiophonique.
CJMD 96.9.
D'écouter le 96.9 des paupiètes, 17h10, on a moins 7, non c'est moins 9, toujours quelques petits nuages, le ciel est plutôt dégagé, on pourrait avoir un mercure plus bas que ça, on est chanceux, on va descendre pour la nuit jusqu'à moins 14, quelques petits flocons. On se retrouve avec un mardi matin ennuagé. Moins 7 degrés. Les nuits seront très froides là, au cours des prochains jours. Moins 14 cette nuit, comme je l'ai dit. La nuit entre mardi et mercredi, moins 18. On parle pas de température ressentie. Là. Indicateur de paupiètes, officiellement déclaré dans Politique correct. Mercredi, moins 11, alternance soleil-nuages, quelques flocons qui donneront un 10 cm. C'est plus que quelques flocons, en fait. On peut s'attendre à sortir nos pelles encore une fois. Pour ce mercredi-là, la bonne nouvelle, c'est qu'après jeudi et vendredi, on devrait avoir la paix en termes d'accumulation de neige. Je vous parle pas d'après parce que j'en vois un peu, puis ça a le temps de changer. Je préfère aller parler à Éric Lantier, qui est au bout du fil. Bonjour, Éric.
Eh oui, ben oui, bonjour. Je suis bien content d'être là au chaud à l'intérieur parce que dehors, ben, il fait froid, il y a de la neige, mais on est bien sur les ondes du 96.9.
Exactement. T'as profité d'un bon salon, un bon setup pour écouter le Super Bowl hier directement de chez toi. T'es sorti, qu'est-ce que t'as fait?
Ben hier, c'est ça, je suis allé dans un resto-bar avec des amis. On était 12 et puis on a eu bien du plaisir. Écoute, sur les 12, il y avait 5 femmes. Alors, c'est intéressant.
Ça devient de plus en plus populaire chez les femmes, ce sport-là. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Avant, c'était l'apanage des hommes, puis là, ça se démocratise. Mais le Super Bowl, pas nécessairement le football. Puis les hommes, on reste là pour répondre aux questions sur les enjeux techniques. Puis on n'est pas tout le temps capable. Hein? Il y en a des cas, tu sais, gars, justement, des Eagles, quand il a fait son toucher, on l'a clairement vu toucher le sol avec le ballon, il l'a rééchappé, puis il l'a repris. Là, j'étais là, ma blonde, c'est quoi qui se passe? Je sais pas. On était un peu gourus quand on le sait pas. On se pensait bon en football. Finalement, c'était parce que il se demandait vraiment s'il y avait le contrôle au moment de le déposer. Mm-hmm. Puis ça a eu l'air que c'était le cas. Je me trompe pas. Oui, mais tu voulais féliciter les Eagles, justement, qui ont eu un match spécial. Ils ont été chanceux un peu, mais ils ont bien fait ça.
Oui, ils ont bien fait ça. Puis je pense que le jeu du match, c'est quand un des joueurs... Les Patriots ont voulu sauter par-dessus le joueur des Eagles, mais il a frappé le jackstrap sur le casque. Là. C'était assez rigolo.
Un califourchon.
Pas vu ça. Moi, j'ai attrapé les 6 dernières minutes seulement de la partie.
Okay.
Mais je vais regarder le replay quelque part. Ça m'intéresse. C'est drôle. OK.
Oui.
Ceci étant dit, on peut commencer notre petite chronique officiellement, qui est plutôt politique habituellement, avec la chefferie, la course, la chefferie du Parti conservateur, progressiste conservateur de l'Ontario, qui fait jaser avec le départ du chef qui était là. La campagne s'en vient bientôt là-bas. Il y avait un chef et il y a eu des allégations d'agression ou d'harcèlement sexuel. Tout de suite, le gars s'est retiré. Ça a ouvert la porte à une course à la chefferie.
Oui.
S'il est engouffré, de ce que je comprends officiellement maintenant, le frère de Rob Ford, Doggy, qui était conseiller municipal à Toronto, qui n'est pas la flèche la plus aiguisée du sac que peut constituer l'Ontario à 11 millions de personnes, quand même, il aurait pu trouver mieux que ça un peu. Mais bon, tout le monde peut se porter candidat, je pense, avec un peu d'effort. Et sinon, il y a, avant de passer à la fille de... On a des gens sur les rangs officiellement qui sont de l'ordre de...
Ben, il y a Christine Elliott qui s'est déjà présentée 2 fois à la chefferie de ce parti-là.
OK.
Contre Tim Hudak puis Patrick Brown.
D'accord.
Qui, elle, certainement veut devenir une ministre fort probablement qu'elle ne sera pas élue chef, mais quand même, elle veut avoir une position ministrable, ça c'est clair, c'est pour ça qu'elle se présente.
Généralement, ça aide, ça. Quand tu as fait de la course à la chefferie et tu n'as pas trop brassé le principal protagoniste, tu peux espérer après avoir un poste intéressant. Effectivement, il y en a qui ça motive.
Puis surtout qu'elle, elle a été l'épouse de feu Jim Flaherty, qui était le ministre des Finances au fédéral.
C'est ça, le gouvernement.
Elle s'est... Harper. Ouais.
Comme disait, me disait M. Demers, hors d'onde tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Ouais.
Elle a déjà fait de la politique. Elle s'est présentée au provincial. Elle a été en politique de 2006 à 2015. Et donc, elle a une expérience sur le terrain, ce que la fille de Caroline Mulroney n'a pas. C'est pas une politicienne de carrière.
Ben non. Elle, oui. Elle était candidate officiellement dans une circonscription avant que le chef décide d'aller s'occuper de ses problèmes l'autre bord, en cours. Sinon, je pense qu'elle a parti une OSBL qui s'appelait Shoebox Project. Elle a un petit cursus honorum, pareil. Tu voyais qu'elle voulait éventuellement se présenter. Elle travaillait aussi pour une firme de conseil en investissement. La dame est avocate, qui est la profession de prédilection chez nos politiciens en général. Mais c'est vrai, pas d'expérience concrète en politique avant très récemment.
Oui, sauf que elle va avoir certainement dans les corridors du pouvoir son père qui va la conseiller, qui ça va lui faire plaisir. Et puis, je veux dire, quand tu as un premier ministre comme père qui est à côté de toi, c'est certain que ça aide, ça donne le vent dans les voiles. Surtout lorsque ton père, qui a été premier ministre, est vivant encore.
Écoute, j'ai l'impression que dans son cursus honorum aussi, la seule charge d'administration publique à laquelle elle a touché, M. Mulroney a pu aider peut-être, c'est les conservateurs qui l'ont nommé là, Lisa Raitt, là, dans le temps, puis c'était pour un pont qui allait être construit entre Windsor et Détroit. Et là, on s'est tous demandé, évidemment surtout les partis d'opposition, quelles étaient ses compétences pour avoir décroché ce poste-là. Ça sentait le petit appel entre deux premiers ministres. Un petit peu, je sais pas.
Ouais, sûrement. Là, je veux dire, l'histoire ne le dit pas, mais on s'en doute pas mal. Mais ce qu'on dit d'elle, c'est que c'est une femme qui est remplie d'enthousiasme, qui est déterminée, puis elle incarne le renouveau. Donc, elle est au début de la quarantaine, elle est pas trop vieille, c'est pas une jeune femme, mais c'est quand même, elle est dans la force de l'âge.
43 ans, oui.
Exactement. Et ce qui fait qu'elle incarne un renouveau. C'est une femme, donc on va voir une femme qui aspire à devenir première ministre. Et évidemment, je crois qu'elle va être la rassembleuse que les Ontariens ont besoin. Elle incarne justement le centre. Elle incarne quelque chose de modéré, disons, une approche modérée. Ce que Doug Ford n'incarne pas.
Ah non, hein? Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Montréal.
Ouais, peut-être, c'est vrai.
Avec la nouvelle mairesse. Je pense que les gens, grosso modo, sont tannés de ce qui se faisait avant.
Je serais pas surpris.
De l'ancienne école.
Je serais pas surpris que cet épisode-là, dont tu fais mention, puis avec ton analyse est bonne, est résonné dans l'esprit de Caroline Mulroney récemment.
C'est deux grosses métropoles. Toronto est beaucoup plus gros, mais quand même. Que, ouais,
là, elle se présente pour l'Ontario. Oui, M. Lemaitre?
Peut-être qu'elle va laisser peut-être les traits... c'est bon ce que tu indiques. Elle va laisser les traits urbains parce que les banlieues sont quand même très importantes pour l'Ontario.
Oui.
Donc, elle va donner ce côté familier qui va lui attirer des supporters.
Ben oui, parce que le renouveau, c'est pas tout. Il faut que tu aies une notoriété quelque part et tout ça. C'est un peu paradoxal que cette notoriété vienne de son père puis que ça soit le jouxté à du renouveau.
Ben, ça ferait comme Justin.
Ouais, mais à un meilleur CV que Justin aussi. Puis ma question, tout ça pour dire... On en pitch des informations sur elle. Vous pourrez maintenant faire une bonne job à la machine à café pour les élections en Ontario prochainement. Mais est-ce que c'est un tremplin seulement vers le fédéral, justement? Est-ce qu'on aura un affrontement entre les deux enfants d'anciens premiers ministres?
Ben, c'est une première marche, peut-être.
Oui. Clairement. Pour moi, c'est clair. C'est clair, évidemment. Elle va se faire les dents en Ontario. Elle va pouvoir mobiliser des forces vives. Elle va pouvoir aller à Toronto rencontrer des gens influents, aller chercher du financement. Et c'est clair qu'elle, si elle fait un bon travail, elle sait bien s'entourer, puis si papa est encore en santé et en forme, c'est certain qu'on va l'avoir au fédéral dans quelques années. Et il faut s'assurer qu'elle est bien entourée, il faut s'assurer que justement son premier mandat soit un mandat qui amène une stabilité à l'Ontario, qui redonne justement à Toronto une valeur à neuf, si on veut. Et si tous ces ingrédients sont là, c'est certain qu'elle va se lancer au fédéral. C'est clair que papa va l'encourager dans ce sens-là.
Peut-être juste un mandat et puis le saut se fera. Espérons qu'elle ne passera pas ce mandat-là justement avec les yeux sur Ottawa et non sur... c'est à Toronto, me semble, le Parlement de l'Ontario.
Ouais. C'est le 10 mars que ça va, qu'on va avoir les résultats.
Oui, ça s'en vient quand même vite. On en parlait pour la météo tantôt. Ça va aller vite. Parlant d'aller vite, le temps passe aussi pour nous ici. Alors, on devra se ramener à la maison avec la politique du Parti québécois. Donc, tu veux nous parler un petit peu. Je te laisse commencer sous l'angle où tu le souhaites.
Ben oui. C'est Lise Ravary qui m'a inspiré aujourd'hui dans un article du Journal Le Québec qui s'intitule « Le PQ revient en arrière ». Et puis, je me dis... Retour en arrière pour le PQ, devrais-je dire. Ce qui arrive, c'est que elle nous fait remarquer quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un an, pour ceux qui l'ont oublié, Jean-François Lisée recevait le rapport préliminaire qui s'intitule « Oser repenser le PQ ». Et ça avait été déposé par, justement, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ouais.
Et ce qu'on voulait, c'est attirer les jeunes et faire du PQ un parti qui n'est plus un parti de boomers. Et là, qui fait Jean-François Lisée, plutôt que de tenir compte de ces informations-là qui étaient dans le document, eh bien, il ramène un vieux de la vieille, un vénérable psychologue, Camille Bouchard, 77 ans, pour en faire son conseiller en politique familiale.
Ouais.
Et ce qu'il veut faire, Camille Bouchard, il veut devenir le promoteur de l'État-providence.
Oui.
C'est pas rien.
C'est pas rien en 2018 au Québec. C'est vrai qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'avoir tous les services qu'on a. Et lui, il table là-dessus à un moment critique de ce parti-là. Pas question de regarder pour quelques ménages que ce soit dans l'État. Il me l'a dit ici, les libéraux ont fait tellement de bonnes jobs qu'il n'y a plus de gaspillage dans l'État québécois. Il me l'a dit lui-même, Jean-François Lisée, ici. Tout ce qu'il trouve à ramener, c'est Camille Bouchard. Tant qu'à ça, il aurait eu des meilleurs. Puis gardons Agnès Maltais.
Ouais, tant qu'à ça. Mais moi, ce que ça me lance comme signal, l'analyse que j'en fais, là, c'est que l'influence de Stephen Harper au niveau de la stratégie politique, là, s'est rendue jusqu'au Québec. Stephen Harper, c'est un gars qui allait chercher des clientèles cibles puis donner des messages à ses clientèles cibles. Puis c'est ce qui est en train de se dessiner au Québec. On voit que le PQ se concentre sur les boomers, la CAQ sur les X, puis le Parti libéral sur les jeunes, parce que les 18-34 ans favorisent le Parti libéral du Québec.
Oui, j'ai vu ça.
Eh oui, 34% des jeunes de 18-34 ans vont voter, ou en tout cas songent voter pour le Parti libéral du Québec. Donc, on a vraiment trois segments générationnels. PQ boomers, CAQ X, puis PLQ, les milléniaux.
C'est incroyable, ça. Oh. J'ai hâte qu'on fasse un sondage qui va être axé là-dessus, parce que je pense qu'ils sont trop concentrés dans les circonscriptions anglophones à Montréal. Il y a quelque chose qui marche pas. Je connais personne qui pense voter libéral. J'ai 32 ans. J'en connais des plus jeunes. Là. Tu connais-tu Rondi? Voyons donc! En tout cas, mais ça venait de Léger, ce qui n'est pas la dernière des films de sondage, il me semble. Éric Lantier, c'était bien de là que ça émanait, cette donnée-là.
C'est exactement. Puis, je veux dire, Léger est crédible dans son analyse.
Ouais.
C'est quelqu'un qui connaît bien la culture québécoise, qui a sondé le Québec sous toutes ses coutures. Et c'est pour ça que je me dis, à la lumière de ces informations-là, on va voir une guerre de générations aux prochaines élections. À moins qu'il y ait un changement là, significatif. Là,
la mauvaise nouvelle.
Dans cette direction-là qu'on s'en va.
La mauvaise nouvelle pour le Parti libéral, c'est que les jeunes, ça vote pas. Fait que si vraiment ça se réalise, cette tendance-là, que ce soit les jeunes qui appuient les libéraux, ce qui m'étonnerait, traditionnellement, c'est leur capacité à faire sortir le vote des gens qui ont tout le temps voté libéral. Moi, j'ai voté tout le temps libéral, libéral. Les CHSLD, là, puis les maisons libéraux, c'est ça, pour retraités, ils sont forts. Là,
ils ont leurs libéraux, ils ont leurs fidèles électeurs.
Là, ça semble plus être nécessairement le cas. Je pense qu'on va avoir droit à toute une élection prochainement. Je voulais juste... On a commencé sur le Parti québécois et c'est peut-être ses contradictions. Jean-François Lisée a fait une entrevue avec Jean-Marc Salvet du Journal de Soleil dans les derniers jours et il pointait du doigt le troisième lien comme une contradiction qui lie le Parti libéral et la coalition Venir Québec dans une même façon d'aborder un dossier important du genre, en disant ils annoncent d'emblée, avant d'avoir reçu les résultats de l'étude d'opportunité, ils annoncent leur parti pris, ils mettent de côté l'approche scientifique, ils biaisent l'étude d'avance. Premièrement, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas une étude commandée au ministère des Transports du Québec qui n'est pas biaisée d'avance. Ça n'existe pas.
Puis, non, c'est sûr.
Si c'est pas le cas, ils vont s'occuper de la biaiser eux-mêmes pour favoriser leurs amis, genre à Tadoussac, la Société des Traversiers du Québec. Il y aurait facilement pu y avoir un pont sur cette rivière-là. Tu as juste à remonter quelques kilomètres plus haut. Puis là, la question d'être des milliards, on oublie ça. C'est un pont sur une rivière comme il y en a des centaines au Québec. Mais non, on a orienté l'étude. Jean-François Lisée, c'est très bien ça. Mais dans le même entretien avec Jean-Marc Salvet, il s'en va dire qu'il y a un préjugé favorable sur un tramway. Mmh. Et où l'étude d'opportunité? Elle n'est pas encore parue. il a dit tout ça dans le même article. J'ai répété régulièrement ici, prenez-le pas à légère, Jean-François Lisée, c'est un gars très intelligent. Blablabla. Mais là, je sais pas, là, j'en doute un petit peu par les temps qui courent. Je voulais placer ça. Merci de me donner l'opportunité, Éric.
Mais c'est pas pour rien que, justement, le Forum Research mentionne que 3 citoyens canadiens sur 5 qui disent ne pas gober les promesses des politiciens lors d'une campagne électorale. Ouais. Ça, c'est 60% des Canadiens qui sont sondés. Et puis, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui se présentent pas aux urnes, qui ne se présentent pas pour aller voter parce qu'ils ne disent pas à quoi ça sert. Ils nous promettent des choses puis ils ne le feront pas de toute façon.
On dit, d'après moi, les deux autres n'ont juste pas répondu au sondage. C'est carrément ça. Je me souviens pas de mon existence. Je suis pas très, très vieux. Je me souviens pas de mon existence que ça a fait le front page comme quoi qu'un politicien nous avait fait justement des belles promesses électorales ou que ça a été...
Puis qui remplissait, là.
Ben non.
Stephen Harper limitait le nombre de promesses puis il livrait généralement. Il a renié certaines quand même. Frank Petitgros vient de se joindre à nous autres. Salut, mon Frank.
Au niveau municipal, les deux premières années de Régis Labeaume, il mettait quand même en application ce qu'il avait présenté en campagne.
Je veux pas de tramway. Après ça, je veux tramway. Ça, par exemple, mais c'est venu plus tard. T'as raison, t'as le doigt sur quelque chose. Gilles Lahouillé ici, j'ai pas de reniement de promesses de grande envergure. Mais là, on n'est pas dans la politique nationale ni provinciale nécessairement. Ça fait le tour pour notre dossier de cet ordre-là, Éric.
Absolument.
C'est la semaine de prévention du suicide en ce moment et tu voulais nous mentionner quelques petites choses là-dessus, surtout sur l'angle de comment parler à quelqu'un qui peut-être a des idées de ce genre-là.
Oui, tout à fait. Je sais que certains des auditeurs ici du 96.9 qui me suivent sur Facebook savent qu'en 2013, j'ai perdu mon épouse, elle s'est enlevée la vie. C'est moi qui l'ai retrouvée sans vie. Ça a été un choc pour moi et pour mes enfants, évidemment. Et depuis ce temps-là, ça, je suis toujours sensible à cette semaine de la prévention du suicide, puis toujours sensible lorsque des gens vont pas bien, lorsqu'ils sont justement découragés au bout du rouleau. Et récemment, justement, il y a des gens de mon entourage, 2 familles qui ont perdu des proches à cause du suicide. Ils se sont enlevés la vie. Et les gens m'appellent, puisque j'ai passé par l'expérience, tout ça. Et souvent, une des choses, savez-vous quoi, que j'ai trouvé le plus difficile, moi, quand j'ai perdu mon épouse, c'est que les gens avaient peur de me parler du suicide parce qu'ils disaient, on veut pas te mettre mal à l'aise, Éric. Mais ce que je me suis rendu compte, c'était eux qui étaient plus mal à l'aise que moi. Moi, j'avais besoin d'en parler.
Ouais. Ben, c'est, en ce moment, je sais pas quoi dire. Tu sais, je t'écoute.
Ben, c'est ça. Mais c'est, tu viens de le dire. Ce qu'on a besoin, là, soit qu'on est justement aux prises avec des difficultés à l'intérieur de nous puis qu'on songe au suicide, ou ceux qui sont proches de ceux qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un proche, tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est d'avoir une oreille attentive qui fait simplement les écouter. Oh, c'est comme, on cherche pas de solution, on sait que personne peut nous aider parce que si on a perdu quelqu'un, il est trop tard de toute façon. Et si on est en crise à l'intérieur, on veut juste sentir qu'il y a quelqu'un qui nous accorde une valeur, mm-hmm. Il va prendre du temps pour nous écouter. Et c'est ça le besoin fondamental. Moi, je me souviens, un psychologue que j'avais consulté après, puis il m'a dit, Éric, ce qu'il faut que tu trouves, c'est des gens qui ne se tanneront pas de t'entendre te répéter.
Et pas ça, facile, ça. Le réflexe qu'on a, c'est de que ce soit dans quelque situation que ce soit, quelqu'un ouais. qui amène un problème, on cherche des solutions. Et Alex, qu'on dit, tu voulais...
Si j'aborde dans ce même sens-là, ma mère disait toujours qu'elle a déjà travaillé au Centre de prévention du suicide de Québec. Ah, résumait ça en une phrase qui est quand même assez punchy, que j'ai toujours aimé. Le suicide, c'est une solution permanente pour un problème temporaire. C'est au bord du désespoir de sentir que t'as plus de ressources. Puis souvent, c'est vrai que juste une oreille attentive, juste sortir sa merde un peu en dedans, de l'étaler vis-à-vis quelqu'un aussi qui est outillé pour le faire. Puis ça, c'est important parce que des fois, on va être une oreille attentive, mais on n'a pas de mots nécessairement pour d'empathie ou whatever. On fiche sur place. Puis là, on sent que la personne en désespoir de cause n'est pas compris d'autrui.
Regarde, j'ai quelque chose qui vient de me venir, puis là, je vais le dire, mais c'est justement une preuve que, regarde, si t'es pas intervenant là-dedans, des fois, ça peut être touché, pareil. Il n'y a pas de suicide en Haïti. Est-ce que ça peut aider quelqu'un qui est en train de contempler ça, de se faire dire ça? T'sais, eux autres, là, ils ont 58 000 problèmes. On est tellement dans Watt qu'on se... Là, je veux pas accuser, mais est-ce que ça peut aider quelqu'un de lui dire ça, qui est en crise, qui commence à penser à ça? Ça m'est venu. Fait que je l'aurais pas dit, mais je vais écouter, mais en même temps aussi, il me vient, moi, mettons, en tant que intervenant non professionnel, des affaires de même. C'est au bout de ça, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est il y a des ressources maintenant assez solides, assez spécialisées, à bien des endroits. Il y a une ligne particulière, le 511, je pense, pour tout problème social, de quel ordre que ce soit, puis pour le suicide, évidemment, ils vont vous prendre en charge assez vite. C'est de tendre la main à des professionnels. Oui, écoutez.
Oui.
Mais si on n'est pas nous-mêmes formés pour ça, appelez un spécialiste.
811.
Le 811?
Oui, le 811. Il y a le poste 1, c'est pour la médecine traditionnelle. Le poste 2, justement, c'est pour les problèmes psychologiques, santé mentale. Mais il y a un site qui vient de sortir cette semaine. Ça s'appelle commentparlerdusuicide.com. C'est tout ensemble, comment parler du suicide. Et ils mettent des pistes vraiment, vraiment simples. Comment justement aborder quelqu'un qui songe au suicide ou qui est déprimé. Et il y a vraiment des réflexes de base qu'on peut adopter. Et ça, c'est publié par l'Association québécoise de prévention du suicide. J'ai passé au travers et c'est vraiment bien fait. C'est impeccable. Et si, par exemple, il y a quelqu'un dans votre entourage qui dit « Moi, je suis au bout du rouleau. Je vois pas la lumière au bout du tunnel. Je sais pas comment m'en sortir. » Ça, c'est des indications importantes. Et de demander, de dire « Mais est-ce que tu as de l'aide? Est-ce que, par exemple, tu songes, toi, à t'enlever la vie? » Il faut poser la question directe comme ça pour que la personne puisse avoir, justement, le loisir de le dire. Et si le lien de confiance n'est pas assez solide, c'est sûr que la personne ne le dirait pas. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller consulter vous-même, aller au 811, le poste 2, puis dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux l'aborder? Et là, il y a des intervenants qui peuvent vous équiper pour intervenir. Et je pense que c'est à ça que ça sert, la semaine de prévention, c'est de se sensibiliser à ça et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec qui on est puis avec nos moyens.
J'allais dire, c'est très bien dit ça, puis c'est une belle initiative de leur part. Et puis je pense que la parce que vous l'avez souligné, un des premiers points qui est important de briser lorsque on a l'impression que la personne ressent un mal de vivre au point où on en arrive à avoir des idées suicidaires, il y a encore le fameux tabou comme quoi les gens qui se suicident, c'est des gens qui sont faibles, pis ci, pis ça. Et je pense que cette question-là, il faut tout de suite la faire tomber parce que c'est dans la nature de l'être humain de souffrir.
Ouais.
Mais il y a personne qui meurt de la souffrance. Alors, comme tu le dis, dans une société où on est plus confortable, les gens sont pas habitués et leur cerveau est comme...
conditionné à misère. C'est vrai.
Exactement. Donc, tu vois, alors que dans un endroit où ils vivent de l'adversité au quotidien, c'est pas quelque chose qui leur passe par la tête parce qu'ils ont même pas le temps de s'apitoyer sur leur sort.
Moi, je voulais pas, j'ai pas dit ça pour pointer quelqu'un.
Ben non, c'est ça. Puis, faut pas penser que parce qu'on on ressent ce mal de vivre-là, que faut pas se taper sa tête puis se dire, hey, en plus, je fais de l'apitoiement. Non, non, non. Et la première, une des premières choses à faire, c'est juste la personne, tu y fais savoir que elle peut compter sur toi. Puis, comme monsieur dit, des gens qui... faut que tu t'assures que tu vas être prêt à entendre cette personne-là peut-être te raconter 5 millions de fois le même problème. Puis c'est souvent ça qui arrive aussi. Mais il faut en priorité dire que tu vas répondre au téléphone, peu importe l'heure.
Ouais, OK. Puis là... là, il y a des outils. Tu viens de mentionner un site, j'aimerais ça que tu le redises, où on peut trouver de l'aide pour aider quelqu'un qui a des problèmes du genre.
Oui, c'est commentparlerdusuicide.com. Et c'est vraiment clair, c'est bien fait. C'est un site aéré. Commentparlerdusuicide.com. Et c'est des pistes simples. Puis lorsqu'on met ça en pratique, vous allez voir, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à parler. Souvent, les gens là qui songent au suicide, c'est qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir. Mm-hmm. Puis ils se sentent comme justement seuls au monde dans leur réalité.
L'isolement.
Et d'en parler, déjà, ça désamorce une partie de la tension. Et ça, c'est vraiment important.
Merci de parler de ça avec nous, Éric. 17h36, on doit y aller. Merci encore. Et puis, là, j'ai dans la face, je te garde avec nous pour mentionner ça, ce qu'on appelle un ID de Tactica, qui est un groupe de Lévis, qui ont fait une chanson là-dessus. Puis, ils viennent me revenir un numéro grâce à eux, en tête, un 866 appel aussi, pour tout genre de problème de cet ordre. On ajoute ça à la liste. Merci, Éric Lantier.
Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.
Merci beaucoup. On se laisse là-dessus quelques instants. On revient avec d'autres considérations, peut-être un peu plus joyeuses. Restez avec nous.